Écosystème, Florence Farion.
Il faut tout un village pour élever un enfant. Vous connaissez sans doute ce proverbe africain. Ici, on ne voit pas tout à fait les choses de la même manière. On fait un enfant à deux et c'est souvent cette même père qui l'accompagne, ou pas. Mais rarement, en tout cas, l'enfant est entouré d'une troupe bienveillante pour pousser. Souvent, les paires d'épaule parentale sont lourdement chargées parce que la vie ne s'arrête pas à la vie de famille et que la répartition des responsabilités n'est pas toujours celle que l'on espère. Alors, à défaut d'être un village, si l'on est deux et que l'on a un peu autre chose à faire parce qu'on compte sur sa moitié, puis parce que parfois il ne répond pas présent, on se pose plein de questions sur la coparentalité et surtout nous aurons les réponses grâce à notre invité du jour. Soyez les bienvenus dans cet Écosystème. Notre invité est un grand spécialiste de la coparentalité. Il est professeur de psychologie clinique à l'Université de Genève. Et son principal sujet d'étude est justement ce petit tas de deux que sont les parents. Il partage la responsabilité de l'unité de recherche du Centre d'études de la famille à Lausanne. Bonjour Nicolas Favet.
Bonjour.
Vous pensez, comme je le disais, qu'un village pourrait être une bonne idée pour élever un enfant ?
Alors, je pense que toute équipe peut être une bonne idée, donc il n'y a pas, et ce que montre en tout cas toutes les études sur la coparentalité, c'est que effectivement, en tout cas dans nos sociétés, la plupart du temps, c'est une équipe de deux, mais ça peut être une équipe plus large, donc effectivement, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette vision justement du pluriel et de plusieurs ? C'est différents points de vue, différentes manières de faire, ça apprend à l'enfant une certaine souplesse en passant d'un individu à l'autre, ça lui apporte des points de vue différents sur les choses, sur la vie, c'est tout ça ?
Alors, c'est un petit peu tout ça. Du point de vue de l'enfant, en tout cas, c'est la multiplicité des points de vue. Donc, c'est une très bonne préparation à la vie adulte, dans laquelle on est confronté à cette multiplicité en permanence. Donc, c'est une richesse, évidemment, d'expérience. Du point de vue des adultes, eh bien, c'est une répartition des tâches. C'est un soutien, qui n'est pas seulement, d'ailleurs, un soutien
logistique,
comme on dit, instrumental et logistique. Oui. C'est évidemment extrêmement important d'avoir quelqu'un d'autre qui va faire les tâches avec vous. Mais c'est pas que ça, c'est un soutien émotionnel. Et on a un sentiment d'être avec, on a un besoin de se sentir être avec quelqu'un. Et la coparentalité, ou le groupe avec lequel on peut se trouver pour élever un enfant, donne ce sentiment d'être en équipe. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, en tout cas, qui aide à supporter les charges et aussi à partager les joies, il faut le dire, de la parentalité.
Voilà, et je n'ai pas encore dit que vous avez écrit un livre à destination vraiment du grand public qui nous aide tout un chacun à nous repérer face à cette coparentalité. Il est paru chez Odile Jacob, L'art d'être coparent, se soutenir pour élever ses enfants. Tout seul, c'est dur.
Tout seul, c'est dur.
Ouais.
Tout seul, c'est dur. Je dirais, c'est d'autant plus dur maintenant que les exigences sont à la fois familiales et professionnelles. Donc, les deux parents, maintenant, si on reste vraiment sur l'idée de l'équipe à deux, les deux parents doivent faire face aux exigences du monde professionnel et de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment compliqué. C'est une charge importante. C'est une charge de travail. C'est une charge mentale, comme on le dit souvent. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir organiser les deux. C'est pas seulement faire, mais il faut pouvoir penser, planifier. Et donc, évidemment, c'est très, très important de pouvoir se soutenir et de se sentir soutenu pour réaliser ces activités.
Mais quand vous dites surtout maintenant, ça veut dire que aussi la vision et notre organisation familiale a changé. On s'est réduit, c'est-à-dire qu'avant, l'idée du village, elle n'était pas forcément là, mais il y avait des relais possibles avec des grands-parents. Les distances géographiques font qu'aujourd'hui, c'est moins possible, que peut-être les grands-parents travaillent. Enfin, on a réduit notre famille nucléaire, notre famille de parents, ou
alors,
pas ?
On l'a réduit, effectivement. Il y a une certaine, en tout cas, déconnexion avec les générations supérieures par rapport à avant. Mais surtout, ce qu'il y a parmi les changements sociaux extrêmement importants, c'est que finalement, il y a eu une redistribution des rôles. Et il y a eu un double mouvement qui s'est produit vers le milieu du XXe siècle, à la fois bien des femmes qui sont entrées dans le monde du travail, et puis des hommes qui aimeraient rentrer dans le monde familial. Et tout ceci, évidemment, provoque une nouvelle répartition des rôles, une nouvelle répartition des charges, des attentes qui sont des fois contradictoires d'ailleurs, hein, tant les papas que les mamans se sentent des fois un petit peu tiraillés entre les attentes, on va dire, qu'on appelle traditionnelles. Finalement, si je veux être une bonne maman, ça veut dire que je dois être à la maison, Mais en même temps, j'ai envie de faire mon travail. Et puis, si je veux être un bon papa, ça veut dire que je dois m'investir dans mon professionnel et ramener des ressources. Mais en même temps, j'aimerais m'occuper de mes enfants. Et puis après, non seulement il faut faire face à ces demandes qui peuvent être contradictoires, mais en plus de ça, il faut s'accorder l'un avec l'autre par rapport à ça. Donc c'est un travail plus complexe, plus riche, certainement, parce que justement, ça a ouvert un champ des possibles. Mais par contre, c'est plus complexe. Il faut négocier, il faut discuter. On sent d'ailleurs encore cette force, je dirais, traditionnelle, dans le sens que on sait que à chaque étape du cycle de vie du couple, après le mariage, après la naissance des enfants, on tend, dans l'organisation du couple, on tend vers une spécialisation un peu plus traditionnelle. C'est-à-dire, pour le faire de façon un peu caricaturale, un couple très égalitaire qui vit en union libre va commencer à se spécialiser un petit peu plus une fois marié, et puis une fois que les enfants seront là, va se spécialiser encore plus en direction de la répartition traditionnelle, maman au foyer, papa au travail.
Peut-être une question sur votre laboratoire quand même, justement, puisque vous étudiez cette coparentalité, vous étudiez la manière dont fonctionnent les familles. Comment ça s'étudie, en fait? Vous faites venir des familles que vous observez dans des situations que vous questionnez. Comment vous travaillez?
Alors, on fait beaucoup. Alors moi, j'ai fait beaucoup de recherches vraiment sur la période spécifique, la transition à la parentalité, donc avec des tout petits enfants qu'on peut évidemment pas interroger. Donc on passe beaucoup par l'observation des interactions et on demande effectivement aux familles en laboratoire, on leur demande de jouer à trois et de faire quelque chose qui est peut-être un petit peu inhabituel avec un tout petit. C'est on demande aux parents de se coordonner pour jouer ensemble. Donc, on essaye de regarder comment les parents arrivent à se mettre d'accord, comment ils se répartissent les rôles, comment chacun tient compte de ce que l'autre est en train de faire. Vous êtes en train simplement de faire risette avec bébé. Est-ce que l'autre parent va embrayer sur le jeu que vous faites, ou est-ce qu'il va proposer au bébé une stimulation un petit peu contradictoire qui fait que le bébé va se trouver tiraillé entre deux? Donc, on essaie de regarder un peu comment se construit cette coordination à plusieurs qui va être finalement le fonctionnement familial et comment les coparents arrivent à se coordonner. Après, ce type d'étude, hein, on travaille évidemment dans une perspective de psychologie clinique, ce type d'étude vise quand même de façon préventive à essayer de voir s'il y a déjà des comportements, par exemple, de compétition entre les deux parents. L'exemple vraiment d'un parent qui stimule le bébé, qui joue avec, et puis l'autre qui interfère. Bien sûr que ça arrive, on fait toujours des faux pas, mais quand on fait des observations avec des familles qu'on suit des fois sur plusieurs années et qu'on voit que ça vient de façon répétitive, ça peut progressivement induire dans la famille un sentiment peut-être d'injustice, d'être un petit peu dépossédé chez chacun des parents. Et c'est quelque chose qui peut à terme découler sur un conflit plus important entre les parents, qui est quelque chose qui peut être très nocif pour l'enfant. Donc l'idée, c'est un peu de voir si on arrive à avoir des signaux assez précoces qui permettent de prévenir. Ça peut être par des séances d'éducation parentale, d'école parentale, des choses de ce type-là, qui permettent de prévenir les difficultés ultérieures.
Et vous cherchez des volontaires, toujours?
Et on cherche des volontaires.
Ah ben ça, c'est peut-être bien de le dire.
Tout à fait, absolument, absolument. Non, ce sont des recherches qu'on mène depuis de longues années, et puis alors en plusieurs vagues successives. Mais,
ouais. Mais dans cette unité de recherche, justement, ce centre d'études de famille à Lausanne, j'imagine que vous faites des études qui sont faites dans d'autres pays frontaliers autour. Enfin, on est à peu près sur le même genre d'études, j'imagine, dans d'autres pays. Est-ce que la spécificité des familles suisses, la manière dont ça fonctionne ici, est différente, où il y a une universalité dans les fonctionnements, dans les dysfonctionnements avec les pays environnants?
Alors, la première chose, en fait, c'est qu'il n'y a pas si tant que ça d'endroits dans lesquels on fait ce type d'études. Parce que le domaine, en tout cas, du bébé, du précoce, pour l'instant, reste encore très focalisé sur la relation mère-enfant. Donc, des études père-mère-enfant ou autre type de coparents et enfants, il y en a bien sûr, on est de loin pas les seuls, mais enfin, ce ne sont pas les types d'études les plus répandus. On voit des différences, je dirais qu'elles sont relativement subtiles. Alors, je peux vous citer un exemple, c'est anecdotique, mais qu'on a pu constater avec des collègues américains, c'est qu'aux États-Unis, le parent qui est en difficulté avec le bébé, il essaye d'interagir avec son bébé, puis le bébé a pas envie, il pleure, comme ça arrive souvent. Hein. Le parent qui est en difficulté, il attend que l'autre parent intervienne pour l'aider le plus rapidement possible. C'est-à-dire, si l'autre ne le fait pas, il va considérer qu'il est un peu lâché. Chez nous, ça va être le contraire. Le parent qui est en difficulté attend un petit peu plus longtemps. Si l'autre parent intervient trop vite, ça va être vécu comme
Une intrusion.
Une sorte d'une intrusion ou une interférence. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça. Mais je dirais sur les principes généraux, sur le besoin d'être soutenu et de se coordonner, là, il n'y a pas de différence. Mm-hmm. Par contre, ce qui est intéressant, et là, il y a des variations culturelles, c'est, je dirais, dans la transparence qu'on peut avoir sur ce besoin. Hein, puisqu'on a beaucoup le poids, il y a beaucoup le poids qui est mis sur les mamans, encore maintenant, de dire, voilà, pour être une bonne maman, on doit pouvoir assumer. Et quelquefois, c'est compliqué de dire, on a besoin d'être en équipe. Et là, il peut y avoir aussi des différences selon les contextes culturels.
Mais vous avez sans doute entendu cette fameuse phrase, le fallait demander, vous savez, sur la charge mentale, avec cette BD, fallait demander. Voilà. Bah oui, parce que les femmes, on n'est pas toujours très bonnes dans nos demandes.
Oui, mais c'est facile de dire, effectivement. Enfin, fallait demander. Voilà, c'est facile de c'est dire, ça. Mais c'est vrai. Mais ça illustre bien, effectivement, cette tension que je mentionnais tout à l'heure entre la charge traditionnelle qu'on se doit d'assumer et puis le besoin qu'on aurait d'être soutenu. Et il y a quelque chose pour l'instant qui n'est pas encore. Il y a une transition vers une autre manière de fonctionner en famille, mais qui n'est pas encore accomplie. Donc on est dans une espèce de zone intermédiaire maintenant, dans laquelle il y a justement ces forces un peu contradictoires.
Je vous ai posé la question de la géographie, maintenant je peux vous poser la question de la temporalité, c'est-à-dire que ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez sur ces sujets. Est-ce que beaucoup de choses ont changé justement? Vous dites on est en transition, les choses sont en train de changer. Les observations que vous faites aujourd'hui n'étaient pas les mêmes il y a 25 ans.
Si on parle vraiment en termes d'interaction, père, mère, bébé, les choses n'ont pas tellement changé. On a quand même un changement dans l'air du temps. C'est maintenant accepté d'avoir des papas qui s'occupent de bébés. Il y a encore 60 ou 70 ans en arrière, on disait finalement, si le bébé n'a pas sa maman dans les premiers mois, ça va être une catastrophe. Ça, la recherche a montré que ce n'est pas vrai. A montré que les papas peuvent très bien comprendre les bébés, a montré que les mamans peuvent très bien être investies dans le monde professionnel sans que ça soit dévastateur pour l'enfant. Mais ça, c'était un long processus. Il a fallu de longues études. Par définition aussi, parce que on parle quasiment en termes de génération, c'est-à-dire quand vous faites une étude sur un bébé, ben, vous allez suivre sur plusieurs années pour voir. Et puis, il faut les cordes, vous ne pouvez pas évidemment avoir juste deux ou trois situations. Donc, il a fallu beaucoup de temps. Mais de ce point de vue-là, il y a quand même un changement qui est bien installé. Et voilà, mais ça avance quand même relativement lentement. On peut voir les discussions de congé paternité. Ça montre qu'on avance, mais lentement.
Lentement, mais sûrement. L'art d'être coparent, se soutenir pour élever ses enfants. Vous l'avez compris, le sujet est universel, le sujet est passionnant. Nicolas Favet est notre invité jusqu'à 14h. Le livre est paru chez Odile Jacob. Mais nous avons des ponctuations musicales. Et c'est Nathalie Schoenberg qui nous propose aujourd'hui Malia, premier choix musical avec Me and My Girlfriend.
Écosystème, tous les samedis à 13h sur la première.
Me and my girlfriend, sitting down talking. Our witty minds do a lot of walking. Wading through the murky waters. System is down, taking our crown. Me and my girlfriend sitting down and talking. I don't wanna sing another preachy song. I just wanna know that I am not alone. I don't wanna sing another preachy song. I just wanna tell you you are not alone. Me and my girlfriend, shutting down awkward. Witty minds do a lot of walking, waking.
Notre invité est aujourd'hui Nicolas Favé. Nous parlons de l'art d'être coparent, de se soutenir pour élever ses enfants. L'essai est paru chez Odile Jacob. Je rappelle, Nicolas Favé, que vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Genève et que vous partagez la responsabilité, une sorte de coparentalité comme ça, l'unité de recherche du Centre d'études de la famille à Lausanne, où vous observez ces familles. On parlait beaucoup des rôles et des dynamiques et des changements. Première question peut-être qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de ce changement, c'est évidemment le travail des femmes. Quelle saugrenue idée nous avons eue de vouloir mettre le nez dehors. Ça a été le changement le plus fondamental dans ces dernières décennies, Nicolas Favé, ce travail des femmes.
Alors, ça pour moi c'est difficile de répondre, je ne suis pas sociologue, mais ça a été un changement fondamental. Je ne peux pas vous dire si c'est le plus fondamental, certainement un changement extrêmement...
En tout cas, dans la dynamique familiale, c'est
dans la dynamique familiale, absolument. La dynamique familiale, alors ça oui. Et je dirais, vous dites une saugrenue idée, je dirais moi, de mon point de vue de papa, je trouve que c'est une excellente idée, parce que ça a permis,
au papa... Tout le monde aura compris la distance que je mets en disant saugrenue. Hein.
Ça a permis comme ça au papa de, voilà, d'être impliqué dans la famille... ce qui pour moi a été un grand plaisir. Donc voilà, je pense que c'est une réorganisation qui a donné une beaucoup plus grande richesse d'expérience aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Donc effectivement.
Mais qui a ouvert le champ d'une négociation justement dans la coparentalité qui était toute nouvelle.
Exactement. En fait, dans le domaine en tout cas de la psychologie, on ne parlait pas de coparentalité jusqu'au milieu des années 70. C'est un terme qui n'existait pas. Parce que ça ne se posait pas. Quand on parlait de parentalité, c'était la mère et les enfants, et c'est tout. Donc la coparentalité, finalement, n'était pas quelque chose qui paraissait si fondamental que ça. Et au départ, d'ailleurs, on n'employait même pas le terme coparentalité. Les premiers, c'est un thérapeute de famille, Salvador Minuchin, qui a le premier utilisé le terme de système parental pour désigner le fait que, dans le fond, dans la famille, c'était fondamental que les deux parents, mais on va dire, enfin les deux adultes, on va dire, ou le groupe d'adultes, s'entendent pour faire fonctionner la famille. Et quand je dis fonctionne, c'est vraiment dans l'idée, arrive à accomplir son but qui est d'élever les enfants et leur permettre de devenir des adultes responsables et intégrés socialement.
Et maintenant, il y a le couple d'amoureux et puis il y a le couple main dans la main, partenaire pour élever les enfants. Ça a découlé de ça finalement, la naissance de ces deux concepts.
Alors oui, ça a été en fait une sorte de double mouvement. D'abord effectivement un petit peu par le biais de la thérapie de famille et de l'idée tout d'un coup de l'importance de ce système parental, et puis beaucoup dans le travail sur dans l'accompagnement post-divorce. Quand vous avez eu des enfants, quand vous divorcez, quoi que vous fassiez, vous restez des coparents. Donc ça, c'est un contrat à vie.
Donc, c'est ça.
On s'est dit à un moment, finalement, il faut réussir pour accompagner les couples qui divorcent, il faut réussir à désintriquer ce qui est de l'ordre du couple conjugal, dont on peut considérer que lui, ben, il est fini, il est terminé. Mais le couple coparental continuera à exister. Et finalement, si les deux partenaires ne s'aiment plus et ne se supportent plus au niveau conjugal, mais il va falloir, pour le bien de l'enfant, qu'ils arrivent encore à se parler, à se coordonner du point de vue coparental. Et dans l'accompagnement des couples, maintenant, on travaille justement à séparer ces deux choses en disant, attention, là, on parle de l'enfant et de votre double rôle par rapport à l'enfant, ce qui est différent de tout le ressentiment que vous pouvez avoir dans votre vécu amoureux l'un par rapport à l'autre. En général, ça permet en tout cas d'avancer de façon assez constructive par rapport au fait, ma foi, qu'il va falloir continuer à élever les enfants, même séparés.
On abordait tout à l'heure le travail des femmes. Vous êtes assez clair avec le fait que, justement, une femme, une mère qui décide de travailler et qui travaille, ça ne va pas péjorer l'éducation et l'enfant.
Non.
Il y a quand même la question, et je vous avoue que parfois je me la pose quand je croise des bébés dans des poussettes à 7h du matin, qu'on a dû bousculer, qu'on a dû réveiller parce que la réalité de la vie fait que et l'un et l'autre doivent partir tôt. Et les conséquences sur le rythme de l'enfant et du petit enfant, elles sont parfois un peu coûteuses.
Alors c'est une question qui a beaucoup occupé les professionnels, hein, cette question-là. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui d'ailleurs, dans un premier temps, avait constaté que dans un certain nombre de situations, effectivement, le fait d'être à la crèche toute la journée, que les deux parents qui travaillent, on avait des enfants qui présentaient certaines difficultés au bout d'un certain temps. Mais les premières études n'ont pas tenu compte de la qualité des structures d'accueil. C'est-à-dire finalement, on faisait les études, on disait voilà, ici on a des familles avec des enfants qui sont intégrés à 100% dans les crèches, et puis là on a des familles dans lesquelles ils vont pas du tout à la crèche, puis on comparait les deux groupes, puis on disait ah ben il y a quand même une probabilité plus grande de difficulté quand l'enfant est à la crèche. Mais on tenait pas compte de la qualité de la structure d'accueil. À partir du moment où vous tenez compte de cette qualité, à partir du moment où vous avez géré des critères de qualité, comme c'est le cas chez nous d'ailleurs, des structures d'accueil, à ce moment-là, ça tempère, je ne vais pas dire annule, mais ça tempère largement l'effet que ça peut avoir d'être toute la journée en structure d'accueil. Donc oui et non, ça peut être selon les conditions, mais ça n'est pas en principe quelque chose de négatif. Il faut aussi tenir compte du fait que les enfants, les bébés, les enfants sont très résilients. Et l'essentiel, c'est ensuite de pouvoir garantir, en tout cas, des moments de qualité dans lesquels le message que vous envoyez, même si c'est une période courte dans la journée, le message que vous envoyez à l'enfant, c'est qu'il compte pour vous et qu'il est quelqu'un d'important.
Vous parlez de l'évolution de cette coparentalité, de cet art d'être coparent, de se soutenir, qui est vraiment le nœud des ajustements, parce que le grand défi, c'est de passer du petit à deux, du couple d'amoureux, à l'arrivée du premier enfant. Parce qu'après l'arrivée du premier enfant, est-ce que les négociations sont toujours aussi âpres à l'arrivée du deuxième ou du troisième? En général, c'est vraiment le passage d'épaule du couple d'amoureux au couple de parents qui est un peu compliqué.
Absolument. Effectivement, alors c'est là que ça gratte le plus. Après, il y a évidemment, je vais employer un mot qui peut sonner de façon affreuse, mais qu'il y a quand même des avantages et des routines qui sont mises en place. Et il en faut, des routines, il en faut. Parce que si on devait négocier tous les matins, chaque fois qu'on part au travail, on devait renégocier notre organisation coparentale, ce serait extrêmement fatigant. Donc il y a des routines qui se mettent en place, mais c'est effectivement ce premier passage qui fait que tout d'un coup, d'abord, vous pouvez plus, individuellement, vous avez plus la liberté que vous aviez avant, mais même du point de vue du couple, vous pouvez pas décider tout d'un coup des beautés, après, en rentrant le soir, dire, ah ben, on va se faire un petit restaurant ce soir, on va aller au cinéma après. Vous pouvez plus le faire. Vous pouvez le faire, mais c'est plus aussi facile.
Il y a une forme de naïveté, vous diriez, vous, dans les couples qui se lancent dans la parentalité, pardon, question générale, mais on sous-estime souvent.
Alors, on sous-estime souvent parce que on oublie de problématiser. Les couples sont peu avertis des difficultés qu'ils vont rencontrer. Maintenant, un petit peu plus, mais il y a une vingtaine d'années, ça se faisait très peu. Toutes les enquêtes le montrent, et là, alors c'est vrai, je dirais, dans toutes les sociétés occidentales, l'arrivée de l'enfant est suivie d'une période d'insatisfaction dans la relation de couple qui dure d'un à deux ans, et c'est près, entre 80 et 90% des couples le racontent. Insatisfaction émotionnelle, sexuelle, dans la répartition des tâches. Et l'un et l'autre sentent une espèce de désillusion, disant finalement, voilà, je suis oublié, je suis, etc. Et c'est quelque chose qui est tellement standard que ça en devient presque normatif. Alors je disais, faut pas être normatif, ça en devient presque une norme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal. Et ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que finalement, ce moment de déliaison du couple est finalement assez utile pour accueillir ce troisième, qui vient quand même vous compliquer la vie, il faut le dire. Donc, voilà, c'est comme une espèce de... Le couple se distend un petit peu pour faire la place à l'arrivée du bébé, puis ensuite on se réorganise à trois, et après on arrive à restaurer dans un deuxième temps le fonctionnement du couple conjugal. Mais on est peu averti à ça. Et beaucoup de parents peuvent raconter des difficultés importantes. Aussi, on sait qu'il y a beaucoup de mouvements émotionnels chez la maman et chez le papa, ce qui est un petit peu moins connu. Et c'est très compliqué pour les jeunes parents, les nouveaux parents, quand je dis jeunes parents, les nouveaux parents. C'est très compliqué quand le bébé est là et vous vous sentez déprimé, triste. Et toute la famille arrive avec les cadeaux, et comme vous devez être content, comme vous devez être heureux, comme votre bébé est beau, etc. Et vous, vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que je viens de me faire? À un moment, ça gratouille.
Il y a de plus en plus de structures quand même, hein, d'aide et de choses comme ça qui viennent. Oui, parce qu'on a vu que, justement, le nombre de couples qui explosent dans cette période-là, c'est assez important. Donc, il faut aider, accompagner, probablement, dans ces moments-là, vraiment.
Alors maintenant, il y a un travail important qui est fait de dépistage, des dépressions même prépartum. Donc les couples sont beaucoup plus accompagnés par rapport à ça que c'était le cas il y a quelques dizaines d'années. Donc maintenant, évidemment, on reconnaît le fait que c'est une période qui est délicate. Et là, on va dans le bon sens par rapport à ça. Ouais.
Comment être coparent aujourd'hui? Chez Edith Jacob, vous avez la réponse. C'est un essai que signe Nicolas Favet et qui vient de paraître. On continue à en parler dans cet égosystème du jour. Après avoir écouté La Maison Tellier, quelqu'un d'autre sur la première.
parfois je me suis perdu sous des cieux inconnus. Petit cœur à prendre ou à laisser depuis ma chambre. Je regardais les étoiles filer. Souvent je me suis égaré dans un rêve éveillé où le bonheur sans doute coulait un peu au goutte à goutte. J'ai toujours rêvé d'être quelqu'un d'autre et peut-être j'y serais parvenu. Mais les rêves s'épuisent au hasard d'une brise dans les bras de l'inconnu. Ce matin, j'ai emprunté des chemins détrempés, un autre était déjà passé par là. Et si cet autre, c'était moi? J'ai toujours rêvé d'être quelqu'un d'autre et peut-être j'y serais parvenu. Mais les rêves s'épuisent au hasard d'une brise dans les bras de l'inconnu. J'ai toujours rêvé d'être quelqu'un d'autre et peut-être j'y serais parvenu. Mais les rêves s'épuisent au hasard d'une brise dans les bras de l'inconnu.
Dans cette troisième partie d'Égosystème, nous continuons à parler de la coparentalité, comment devenir coparent et surtout comment le rester. C'est un peu le défi. On a bien compris que c'était pas forcément simple à l'arrivée de l'enfant. Dire quand même que le couple amoureux, s'il bat déjà un peu de l'aile, je crois qu'on est tous d'accord qu'il ne faut pas avoir la naïveté de penser que l'enfant va régler les problèmes.
Alors, c'est très peu probable, effectivement. Ah. La fameuse phrase, ils ont fait un enfant pour essayer de se rapprocher.
Non. Se rabibocher.
Se rabibocher, non. Alors ça, c'est clairement quelque chose qui ne fonctionne pas parce que, je dirais, en général, c'est une turbulence importante. Les couples doivent se réorganiser, peuvent en ressortir un petit peu cabossés quelquefois. Et si ça allait mal avant, il y a très très peu de chances que ça aille mieux après.
Et on découvre aussi plein d'aspects de l'autre qu'on ne connaissait pas.
On fait connaissance avec un autre, avec d'autres facettes de quelqu'un qui peut être finalement un partenaire ou une partenaire amoureuse absolument fantastique, quelqu'un avec qui on aime échanger intellectuellement, et puis qui peut être un parent absolument lamentable. Ben, ça va être compliqué. Donc évidemment, c'est un pari de se dire finalement, cette personne avec qui je suis bien dans toutes ces dimensions relationnelles conjugales, ben je vais aussi être bien avec dans la dimension coparentale.
Ce qui me fait rire, c'est que vous parlez de cahier des charges.
Mm-hmm. Alors je ne sais pas s'il faut être aussi formel du point de vue effectivement de remplir une sorte de contrat comme ça. Mais il faut en discuter. Ce que la recherche a montré, c'est que cette organisation traditionnelle, avec vraiment la maman en charge du domicile et le papa qui travaille, si ça correspond parfaitement aux attentes de l'un et de l'autre, ça marche très bien. Donc c'est là aussi que c'est important de se mettre d'accord, parce que finalement vous pouvez avoir un couple dans lequel les deux partenaires ont une vision très égalitaire des choses et qui vont s'organiser de cette manière et sont tous les deux très contents, et un couple traditionnel où tous les deux sont très contents, l'important c'est d'être d'accord, d'avoir des attentes qui sont accordables l'une avec l'autre, effectivement.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous abordez dans ce livre, puisque la réalité fait que les familles monoparentales existent, vous abordez aussi ces questions en disant que, en ce qui concerne en tout cas les familles homoparentales, c'est un détail de l'histoire, le fait que ce soit deux papas ou deux mamans.
Alors, en tout cas, du point de vue de l'enfant, ça change pas grand-chose. Donc voilà. Mmh. Et là aussi, on a quand même maintenant, je dirais, un bon recul par rapport à ça, qui montre même, d'ailleurs, que très souvent, ce sont même des enfants qui ont des indices de développement quand on mesure, c'est pas la réussite scolaire, le fonctionnement psychologique, qui ont des indices de développement qui sont même plutôt vers le haut que vers le bas.
Et comment ça s'explique ça? Parce qu'il y a une sorte d'investissement peut-être maximum ou de vigilance maximum de ces couples qui savent qu'ils peuvent être un peu dans le collimateur et donc du coup vont dépenser énormément d'énergie pour dire mais vous voyez on est capable.
Alors peut-être bien effectivement une parentalité qui est plus préparée, qui est plus réfléchie, hein, effectivement. On sait aussi que ce sont des couples dans lesquels la répartition des tâches est souvent plus égalitaire que dans les couples hétérosexuels. Donc là, évidemment, ça contredit un petit peu ce que je disais par rapport au fait que tous les types d'organisation familiale fonctionnent. Tous fonctionnent, mais là, on a un indice qui aurait tendance à montrer que quand c'est égalitaire et que vraiment les adultes peuvent s'interchanger dans leurs tâches, ça a l'air de... Peut-être que c'est quelque chose qui joue un rôle positif, effectivement.
Et en revanche, les familles monoparentales, vous dites, voilà, les séparations, ok, pour les enfants, c'est difficile, mais on peut trouver un équilibre. Par contre, ce qui péjore énormément les enfants, c'est la précarité.
Alors, effectivement, c'est certainement la variable principale qui joue, qui pèse sur les familles monoparentales. Pendant très longtemps, les familles monoparentales étaient suspectes, entre guillemets, parce qu'on disait finalement, comme c'est souvent des familles menées par des mamans, on disait finalement, c'est des familles dans lesquelles les enfants vont avoir des difficultés de développement parce qu'il manque la fameuse figure paternelle qui donne la discipline. Ce qui manque, le problème principal, c'est effectivement plutôt les problèmes économiques. C'est-à-dire que quand on compare des familles monoparentales à niveau économique équivalent à des familles biparentales, il n'y a aucune différence dans le fonctionnement, dans le développement des enfants. Et donc ça, c'est vraiment des études, des comparaisons de cohortes avec des grands groupes de familles. On voit qu'il n'y a aucune différence. Et si vous prenez des familles biparentales à difficultés économiques, les enfants auront plus de difficultés que les enfants de familles monoparentales sans difficultés économiques.
Donc les moyens, les ressources de la famille sont finalement plus importantes que la structure même de la famille. C'est un raccourci, hein, mais...
Je ne sais pas si je dirais plus importante, mais là, dans ce cas-là, ça joue un rôle effectivement prépondérant. Effectivement, qui fait que ces familles ont été suspectées à tort de mauvais fonctionnement psychologique et relationnel, alors qu'en fait, ce sont des variables externes à la famille, parce qu'évidemment, les difficultés économiques, ça peut impliquer un déménagement dans un appartement peut-être moins grand, dans un quartier moins favorable, avec moins de services à disposition. Ça peut faire on peut moins acheter de choses aux enfants qui se sentent un petit peu décalés par rapport à leurs camarades. Donc ça crée tout un ensemble de difficultés et qui sont certainement les difficultés majeures que ces enfants vont rencontrer.
Puisqu'on est dans la lignée des familles monoparentales et des séparations et des divorces aujourd'hui, quel système, c'est-à-dire la garde alternée par exemple, est pour les enfants possible? Un équilibre à trouver en gardant papa et maman un pied dans chaque maison, avec, vous le dites vraiment, comme condition absolue, l'entente et le maintien de cette coparentalité, même plus sous un même toit, mais on doit être coparent pour que ça marche, cette garde partagée.
Alors, qu'on sait maintenant, je crois, de façon quand même aussi assez robuste par rapport à la garde alternée, c'est que c'est à la fois la meilleure et la plus mauvaise des solutions. Donc c'est la meilleure si les parents arrivent à s'entendre, et puis ça va être la pire s'ils sont dans un conflit qui est totalement irréductible et si ils prennent feu à chaque fois qu'ils se rencontrent. Mais par contre, quand ça marche, alors on sait que c'est certainement la meilleure solution, c'est-à-dire que l'enfant s'adapte très bien au fait de vivre dans plusieurs foyers.
Et qu'on voit avec le recul, j'imagine qu'il y a plein d'études sur justement ces enfants du divorce, comment grandissent-ils et les ingrédients justement nécessaires pour que malgré tout ça se passe bien. Et derrière ce malgré tout, je mets plein de choses. Mais
alors, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, le devenir de ces enfants est loin d'être aussi négatif qu'on l'a longtemps dit. C'est-à-dire que les études longitudinales qui ont suivi ces enfants. Il y a eu des études qui ont été menées sur 20, 30, 40 ans, hein, où les enfants ont été suivis depuis la séparation des parents jusqu'au moment où eux-mêmes avaient eu des enfants, voire au moment où eux-mêmes s'étaient séparés. Il y a eu vraiment toutes sortes d'études et qui ont montré finalement que c'est à partir d'un certain moment, c'est tout à fait indétectable de savoir si quelqu'un a eu des parents qui avaient divorcé ou pas. Ce qui s'explique aussi par le fait que le divorce étant plus fréquent maintenant, socialement, ça n'est plus un stigmate comme ça a pu l'être à une certaine époque. Maintenant, si vous êtes dans une classe à l'école, vous allez avoir une proportion importante d'enfants dont les parents ont divorcé. Donc, c'est plus comme avant une sorte de marque qui vous distingue des autres.
Mais quand l'un des deux défaille, parce que parfois, après la séparation, voilà, un des deux disparaît et n'est plus présent aux côtés de l'autre parent, aux côtés de l'enfant, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un peut se substituer à cette coparentalité? C'est-à-dire que le nouveau partenaire, la nouvelle partenaire, peut devenir le coparent de cet enfant? Il y a de belles situations, j'imagine.
Alors oui, il y a toutes les situations de recomposition, comme on dit, dans lesquelles, oui, on sait qu'un nouveau, une nouvelle partenaire peut jouer un rôle de coparent, qui est un rôle un petit peu différent du parent, dans le sens que c'est un rôle qui est un peu en deuxième rang. On sait que ça fonctionne bien si le coparent qui est beau-parent ou belle-mère, beau-père ou belle-mère, se met légèrement un petit peu en retrait par rapport aux parents. Donc, c'est pas tout à fait un rôle complètement égalitaire. Il faut être un tout petit peu en retrait. Et puis, il est extrêmement important de continuer, même si l'autre parent est défaillant et a disparu, il est important de continuer à faire exister d'une manière ou d'une autre. Parce que pour l'enfant, il disparaît pas. Un nouveau partenaire ne va jamais effacer le parent. Il pourra jouer un rôle de coparent, notamment dans le soutien qu'il va amener aux parents, mais il ne va pas prendre la place de. Si l'autre parent a complètement disparu, il faut le faire exister
d'une
manière ou d'une autre.
Ou est décédé, parce qu'il y a aussi des décès, évidemment.
Bien sûr, mais il faut qu'il continue à exister d'une manière ou d'une autre.
Le divorce, vous en parlez aussi dans votre livre. On a encore plein de choses à se dire parce que là, on est un peu passé par la fin, mais il y a peut-être d'autres choses pour éviter justement cette fin. L'art d'être coparent, se soutenir pour élever ses enfants. Nicolas Favet est notre invité, professeur de psychologie et co-responsable de l'unité de recherche du Centre d'études de la famille à Lausanne. Nous vous retrouvons juste après un troisième extrait musical d'un album de My Name is Fuzzy, c'est le titre. J'aime ton style un peu badass. Et je vous laisse apprécier.
Basket montant, bonnet vissé, pull over en jean délavé, des cols en noir, des chaussures blanches, un short court en velours côtelé, un pull marine à col roulé, des chaussettes en écailles colorées, des sneakers basses argentées, sweat à capuche, cordon tressé. J'aime ton style un peu badass. T'as l'air à l'aise dans tes godasses. Un jean bleu clair, écharpe nouée, un chandail rose, col en V, chemise fleurie déboutonnée, sandales ouvertes en cuir foncé, un pull uni en coton blanc coincé dans un jean noir serré, un t-shirt oversize imprimé, casquette clinquante, visière levée. Regarde comme ils sont chics, ces gens. Des lunettes rondes, un pull anthracite un peu large, du vernis noir sur des longs ongles, des chemises nues au-dessus des godasses, un tricot clair un peu trop grand, un veston de marque italienne, des mocassins en croco blanc, des lunettes fines américaines. J'aime ton style un peu badass, t'as l'air à l'aise dans tes godasses. Bomber nylon, boots à talons, derbies vernis et socket blanc. Sac banane noir, évidemment, un denim glissé jusqu'aux hanches. Regarde comme ils sont chics, ces gens si bien habillés. Ils ont quelque chose d'unique dans leurs beaux costumes bien taillés. We'll be right back.
J'aime ton style un peu badass. T'as l'air à l'aise dans tes godasses. Regarde.
Égosystème, Florence Farion.
C'est la dernière partie d'Égosystème avec Nicolas Favé, notre invité, professeur de psychologie. Nous parlons aujourd'hui de la coparentalité, comment nos petits tas de deux peuvent accompagner au mieux nos enfants. Est-ce que le genre de l'enfant compte aussi dans la coparentalité, Nicolas Favé?
Alors, le genre de l'enfant va compter parce que il y a des fois des attentes différentes. On sait, par exemple, que quand il y a des tensions entre les parents, imaginons qu'ils aient un seul enfant, si c'est une fille ou un garçon, ils vont réagir un petit peu différemment. Si c'est une fille, la coparentalité va un petit peu se déliter, c'est-à-dire que le papa va avoir tendance à plutôt se mettre en retrait, quitter la vie familiale d'une certaine manière. Si c'est un garçon, par contre, on va plus entrer dans quelque chose qui est compétitif. Donc, il y a une réaction différente en fonction, effectivement, du sexe de l'enfant. Du point de vue de la dynamique relationnelle, on ne sait pas très bien pourquoi. C'est comme ça, mais en tout cas, ça fait une différence.
Oui. Ok, bon, bah écoutez, je le note.
Voilà.
Est-ce que l'enfant a besoin de voir des parents amoureux, proches l'un de l'autre et avec une complicité, enfin, ça va imprimer pour lui la notion du couple et de l'amour pour les années qui viennent?
Alors, très clairement, on sait qu'il en a besoin. Pourquoi exactement? On ne sait pas exactement tous les mécanismes qui sont derrière, mais on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça peut effectivement, parce que ça transmet un message de chaleur et d'amour. On sait aussi que quand le couple s'entend bien, les parents ont tendance à beaucoup parler entre eux de ce qu'on appelle les états internes, des émotions. Voilà, j'ai senti que tu étais triste aujourd'hui en rentrant du travail, j'ai senti que tu avais une journée difficile. Donc, de parler d'émotions, il y a une attention réciproque dans lequel il y a tout un discours qui est tenu sur les émotions que les uns et les autres ressentent. Et ça, c'est extrêmement important du point de vue de l'enfant. D'abord pour lui montrer qu'on peut avoir des émotions qui sont différentes, pour montrer qu'on a une vie interne, finalement, que tout le monde a une vie interne, c'est-à-dire que l'enfant apprend que lui ressent des choses, mais que papa et maman ressentent aussi des choses, ça peut être différent, etc. Et l'importance de tout ça, on le sait, je dirais presque, alors en creux d'une certaine manière, c'est que les études ont montré que les parents qui restent ensemble pour le bien de l'enfant, comme c'est dit quelquefois, mais dans une relation qui est complètement dévitalisée, c'est-à-dire finalement, on collabore, mais sans aucun échange émotionnel. On s'est réparti les tâches, chacun fait son job, mais on ne se remercie pas, on ne s'aime pas, il ne se passe rien du tout. Mmh. Eh bien, ces enfants, en fait, ont tendance à souffrir de cette situation. Donc, ils réagissent à ça. Alors, encore une fois, on ne sait pas exactement ce qui leur manque. Ce qui leur manque, c'est l'amour entre les deux parents, mais voilà, exactement comment ça se transmet. Mais les enfants réagissent à ça. Donc, on voit qu'effectivement...
Donc le rester ensemble à tout prix, continuer à être coparents sous un même toit alors que le couple conjugal n'existe plus, même ça l'enfant en souffre.
Même ça l'enfant en souffre, oui, ouais. Tout à fait.
Même si on a l'impression qu'on fait juste.
Même si on a l'impression qu'on fait juste, ouais. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il va y avoir, le conflit va briser la glace à certains moments. Donc il va y avoir quelque chose effectivement de très civil, on ne se parle plus beaucoup, mais néanmoins il va y avoir des petites tensions, il va y avoir des disjonctions, il va y avoir des désaccords. Alors ces désaccords, comme on a décidé qu'on ne se disputait pas pour le bien de l'enfant, ces désaccords on ne va pas en discuter, puis l'enfant va vivre, risque de vivre dans un monde qui est un peu fractionné.
Et ça transpire, manière. Ça doit transpirer.
Et ça transpire. Mm. Donc en fait, ce que les études ont tendance à montrer, c'est que ça n'est pas une bonne configuration. Et que d'une certaine manière, il vaut mieux avoir des parents bien divorcés que des parents qui continuent en étant mal mariés, si je peux dire, ou mal en couple. En tout cas, les indices de développement des enfants sont moins bons quand ils restent avec des parents qui ne s'aiment plus et qui sont dans cette espèce, ce sont des configurations familiales qu'on appelle l'enfant au centre, en fait. Ça n'existe plus que pour l'enfant.
Vous parliez d'échanges émotionnels. Il y a quelque chose que vous soulignez vraiment dans cette coparentalité, c'est-à-dire la nécessité d'accueillir les émotions de l'autre et de reconnaître aussi l'investissement que l'autre met dans la vie de famille. Reconnaître l'autre, le remercier, ça fait partie des incontournables.
Ça fait partie des incontournables. Ça a l'air extrêmement simple. C'est effroyablement difficile. Et finalement, c'est exactement la même chose que dans le couple conjugal. C'est-à-dire qu'on a... On a une tendance, il faut le dire, ça c'est quand même relativement bien documenté, on a une tendance à considérer qu'une fois que les choses sont acquises, elles sont acquises. Et on s'oublie les uns les autres. Et ça c'est la routine dans le mauvais sens du terme. Je disais tout à l'heure, il faut des routines, mais cette routine ne doit pas empêcher que de temps en temps, on doit se remercier, on doit reconnaître. Énormément de couples qui se séparent ont des récriminations réciproques qui sont liées au fait de la non-reconnaissance de l'effort qui a été fait. Même dans les situations traditionnelles, la maman va dire « j'ai sacrifié ma carrière professionnelle pour m'occuper des enfants », ce qui est vrai, et monsieur va dire « moi j'ai travaillé jusqu'à m'exténuer pour entretenir la famille, pour qu'elle ne manque de rien », ce qui est vrai aussi, et l'un et l'autre ont l'impression que chacun a l'impression qu'il est celui qui a fait le plus. Et il n'a pas été remercié, il n'a pas été reconnu. Et plus vous attendez, plus vous laissez de temps passer, plus vous laissez les choses glisser, c'est vraiment un effet de sédimentation. Hein. Au début, vous dites, faites quelque chose, on ne vous remercie pas, ce n'est pas grave, une fois, c'est là. Mais après, ça s'accumule, puis un jour c'est trop, vous dites, non, mais c'est plus possible, j'ai tout donné et on ne m'a rien rendu en retour. Et à partir du moment où chacun a cette impression, ça devient très compliqué.
Autre chose que vous donnez comme qui m'a beaucoup fait sourire, c'est les mères garde-barrière. Et ça, je l'ai souvent entendu. C'est vrai qu'on se plaint souvent entre copines de dire « mais il ne fait pas grand-chose, enfin, etc. » Mais en même temps, est-ce qu'on leur laisse la place? Parce que vous dites, on a souvent tendance à... Nous, les femmes, à ne pas lâcher justement ce fameux rôle pour lequel on se sent investi, dans lequel on se sent investi de s'occuper des affaires du foyer, et que quand on délègue, on a toujours le regard qui traîne en disant « Oh, tu fais pas juste ». Ça, c'est dur.
On va en distribuer un peu aux uns et aux autres. Ben dans oui. le sens que c'est effectivement une des choses un petit peu curieuses, se dire on est dans un air du temps plus égalitaire, puis pourtant... Il reste justement beaucoup d'insatisfaction liée à ça. Et ce dont on se rend compte, c'est que d'un côté, on a des papas qui disent on veut s'engager, on veut s'occuper, mais qui ont tendance à trouver que c'est finalement assez compliqué. Et on voit qu'il y a beaucoup de papas qui ont tendance, au bout d'un moment, à finalement lâcher en disant oh, c'est compliqué, c'est lourd, mais de toute façon, je sais que voilà, maman va le faire. Donc, l'engagement paternel est encore assez fragile. Parce que finalement, et c'est quelque chose qui est certainement aussi dû un peu aux attentes sociales, de se dire finalement, ben ça reste une affaire de maman, donc voilà, si ça marche pas, si c'est trop dur, je laisse tomber. À l'inverse, effectivement, les mamans qui ont besoin ont quelquefois l'impression, quand elles sont soutenues, qu'elles sont un petit peu dépossédées par rapport à ce rôle dont elles sentent le poids, hein, de dire voilà, une bonne maman, c'est une maman qui doit tenir sa maison, qui doit élever ses enfants. Donc effectivement, ce terme de garde-barrière, qui est pas un très joli terme, hein, qui vient de l'anglais gatekeeping, hein, d'ouvrir la barrière et de la fermer, c'est l'idée de dire finalement, à certains moments, la maman aimerait de l'aide, mais elle aimerait quand même rester en contrôle. Donc il y a une espèce d'ambivalence, tout comme chez le papa, il y a une ambivalence dans l'engagement de dire je veux faire, mais j'y arrive pas. La maman dit j'aimerais bien être soutenue, mais quelquefois c'est un peu désagréable. Et effectivement, on entend beaucoup de couples dans lesquels la maman dit « oui, mais j'aimerais qu'il fasse, mais quand il fait, j'aime pas comme il fait. Alors finalement, c'est moi qui refais derrière. » Et on a des papas qui m'ont dit « oui, mais moi, j'aimerais bien aider, mais je me fais gronder à chaque fois. »
Oui, puis ça sert à rien parce qu'elle refait derrière. Voilà.
Exactement.
Donc ça fait partie des garde-fous que vous mettez. Qu'est-ce qu'on pourrait allumer encore avant de se quitter comme lumière par rapport à cette coparentalité cohérente et nécessaire à l'enfant? Peut-être dire juste que ces 1000 premiers jours de la vie sont aussi extrêmement importants, que l'UNICEF a mis en France aussi, ils ont créé une commission pour réfléchir à ces 1000 premiers jours. C'est vraiment là où c'est le plus difficile, mais c'est vraiment là où des choses importantes se mettent en place dès le départ.
Alors, je pense qu'il y a une chose importante à avoir en tête, c'est qu'évidemment, on parle de collaboration, on parle de discuter, d'être d'accord, de se remercier. Finalement, on ne vit pas dans un monde dans lequel on arrive toujours à se mettre d'accord. Et ce qui est très important, je pense, c'est qu'il faut discuter des attentes que chacun a, mais on n'arrivera pas à s'accorder sur tout. Et là où ça va fonctionner, c'est à partir du moment où on va accepter le fait qu'on ne va pas être d'accord. C'est-à-dire que vous allez continuer à fonctionner en disant « Ok, ben, il y a certaines choses sur lesquelles on ne se mettra pas d'accord, on va faire des compromis. » Mais il ne faut pas s'attendre non plus, ça peut être un petit peu le danger de se dire finalement « Un bon couple coparental, c'est le couple dans lequel on est en harmonie parfaite. » Il y en a, l'harmonie parfaite ne va certainement pas exister. Là où ça va fonctionner, c'est de se dire à certains moments « Ok, on a discuté, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas être d'accord, mais on va fonctionner quand même. On va faire des compromis et on va accepter ces compromis d'un côté et de l'autre. » Et ça, c'est quelque chose de très important.
Sans avoir l'impression d'être nié, renié.
Sans avoir l'impression d'être nié. Parce qu'on en aura parlé, parce que l'autre aura dit « Ok, on n'est pas d'accord, je reconnais, c'est ton point de vue, c'est pas le mien, etc. » Et puis à partir de là, on peut fonctionner. Ouais.
En tout cas, c'est pas une mince affaire.
Non, c'est pas une mince affaire. Non.
C'est l'aventure de toute une vie et ça dure jusqu'à ce que l'enfant, voilà, c'est long. C'est long la coparentalité, mais c'est bon parfois. L'art d'être coparent, se soutenir pour élever ses enfants. Nicolas Favet, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes professeur de psychologie et que vous dirigez, donc vous co-dirigez, vous avez cette responsabilité de cette unité de recherche du Centre d'études de la famille à Lausanne et qui est vraiment en première ligne pour observer comment ça marche. C'est un peu le secret de la vie quand même que vous essayez de décrypter, parce que franchement, hein, autant de situations que de cas, que de voilà, et que de bonheur ou que de difficultés, j'imagine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être passé par Égosystème. On se quitte avec Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. C'est le dernier choix musical de Nathalie Schoenberg pour cette émission. Je vous invite à aller sur le site rts.ch, sur la page d'Écosystème. Vous pourrez réécouter les émissions, les envoyer sur les réseaux sociaux et avoir tous les renseignements et voir nous écrire si vous le souhaitez. Noémie Carrard était en régie et la semaine prochaine, sachez que nous recevrons quelqu'un que vous connaissez, Nicolas Favet, puisqu'il s'agira de Blaise Pierre Imbert. Il nous parlera d'attachement. Comment il nous vient, comment on s'attache, comment parfois on se détache, comment on se débrouille quand il n'est pas là, comment on grandit. Bref, ce sera la semaine prochaine dès 13h. D'ici là, tout doux week-end sur la première, il est déjà 14h. Bye bye.